France Culture.
À voix nue. Cette semaine, Marceau Vassy s'entretient avec
Michel Troisgros, marié à Marie-Pierre, papa de Marion, César et Léo Troisgros.
Cinquième épisode, Transmettre. Dans l'épisode précédent, Michel Troisgros, nous avons parlé des différents restaurants que vous avez dirigés au cours de votre carrière, en plus de la Maison Troisgros à Roanne, mais aussi de votre passion pour l'art qui a stimulé votre créativité et a beaucoup inspiré votre cuisine. Dans ce cinquième et dernier épisode, il sera question de la transmission de cette histoire et de ce restaurant à vos enfants. Transmission qui passe par un déménagement, nous allons y revenir. Mais avant de parler de ça, il y a une question que je voulais vous poser, Michel Troisgros. Lorsqu'on est un grand chef cuisinier, lorsqu'on a en plus un nom comme le vôtre qui appartient au patrimoine gastronomique français, quel rapport entretient-on avec la célébrité ?
Alors là, c'est tellement pas quelque chose qui me traverse l'esprit. La célébrité ! Ah là là ! J'ai tellement l'impression de ne pas être dans ce statut-là. Vraiment, c'est pas quelque chose qui me... Je sais pas, ça m'interroge pas. Parce que j'ai... Voilà, je suis resté assez naturel dans ma façon, dans mon quotidien, dans ma façon de... dans mes relations avec mes équipes... très disponible pour eux, pour les clients. Oui, certains me font, ou certaines situations, ou certains d'entre eux me font comprendre qu'ils sont honorés, en effet, de me rencontrer, qu'ils ne s'attendent pas à me voir, qu'une signature leur ferait très plaisir, qu'ils ont pu voir le dernier film de Frédéric Wiseman, Menu Plaisir, et qu'ils ont traversé. Je suis honoré, mais c'est touchant de voir voilà, tout ce qui se passe autour de moi, de nous. J'ai pas conscience, en fait, d'être... j'ai pas pris conscience d'être... moi, en tout cas, pas. La maison célèbre, oui. Parce qu'elle est là depuis si longtemps dans le paysage de la cuisine française, en effet, que oui, je suis conscient que cette maison compte, en effet, elle compte beaucoup pour, voilà, comme peut-être pour être exemplaire, on va dire, dans son mouvement, encore une fois, parce que c'est bien beau la célébrité, c'est bien beau... oui, d'avoir une renommée qui est mondiale, mais en même temps, il faut la dynamiser, quoi. Faut la bousculer, voilà, pour pas s'endormir. On sait vraiment. Alors là, Marie-Pierre s'en occupe, hein, mes côtés, pour la bousculer. Hein. Moi, je l'ai bousculée en cuisine, mais elle le bouscule dans toute la maison. Elle remet en cause les acquis, elle s'interroge en permanence, et derrière l'interrogation, je peux vous dire qu'il y a l'action, quoi. Voilà, l'action pour proposer autrement. Voilà.
J'aimerais maintenant que l'on revienne sur le déménagement que vous avez réalisé ici à Ouche, à une dizaine de kilomètres de Roanne, en 2017. La famille Troisgros était installée en face de la gare de Roanne depuis 1930. Vous avez acheté en 2014 le domaine des Ormes, où on a enregistré ces cinq épisodes d'Avoie Nue. Ce lieu qui va devenir le nouvel écrin du restaurant Troisgros. Pourquoi est-ce que vous avez eu cette envie, Michel Troisgros, avec votre femme Marie-Pierre, de quitter Roanne pour aller vous installer en pleine campagne?
Parce qu'on était au bout d'une expérience. Après 30 ans de travail Place de la Gare, on sentait les limites de notre expérience. Les limites d'une maison qui n'était pas très grande et qui ne nous permettait pas de mener des projets autres que ceux qui avaient été menés. On avait le sentiment, les dernières années, de tourner un peu en rond, à refaire la moquette, la peinture sur les murs... des travaux sur lesquels on revenait sans cesse tous les 10 ans, mais qui nous permettaient pas de nous épanouir, d'une part, nous, et de proposer autre chose. Alors, si on fait l'acquisition en 2014, c'est bien avant 2014 qu'on s'est mis déjà en quête d'un possible nouveau lieu pour la maison Troisgros. Mais nos enfants n'étaient pas cuisiniers, mais on n'a pas trouvé non plus le lieu coup de cœur. Et pour nous, le lieu coup de cœur, il devait être dans le périmètre, parce que voilà, un déménagement de Roanne, mais de Roanne pour Ouche, hein. Ça prend 5 minutes en voiture. Hein. Ce que les Rouennais ont vu comme certains Rouennais ont vu comme un, on va dire, pas une trahison, mais ouais, les trois gros nous quittent, etc. Réellement, c'était la porte à côté. D'ailleurs, on fait partie, Patrick Bouchain disait très justement, les trois gros passent du petit Roanne au grand Roanne. Parce que c'est la grande agglomération rouennaise où je fais partie du grand Roanne. Donc, j'ai pas le sentiment d'un déracinement, bien au contraire, même c'était un enracinement. C'est-à-dire que ce challenge, cette entreprise à réaliser, à rénover, à construire, cette aventure, eh bien, elle nous a encore plus ancré dans le Rouennais. Et on a engagé avec nous, en effet, notre histoire, les entrepreneurs, nos équipes, et bien nous en a pris, parce que ça nous a donné un dynamisme, ça nous a donné une liberté et des ailes. Parce que sans m'en rendre compte, à Rouen, même en changeant les choses, j'étais toujours de retour sur le souvenir, sur ce qui avait été. On me ramenait en plus sans cesse à ça. Même les clients qui ont été des nouveaux clients me ramenaient toujours à ce passé, à ces souvenirs. C'est étonnant. Et ça, c'est pas pour ça que Ouch s'est fait, mais ça s'est produit. C'est-à-dire que Ouch nous a donné vraiment les ailes en termes d'énergie et de liberté.
Est-ce que vous pourriez un peu décrire pour les auditeurs ce domaine de Ouch ?
Alors, ce domaine de Ouch, qu'on connaissait déjà depuis tellement longtemps, parce que moi, gamin, j'étais ami avec un des fils, donc on faisait des booms ici. Voilà, il y avait des rencontres d'adolescents qui se passaient dans une partie de la ferme qui est là. Alors, c'est un ensemble de bâtiments qui est entouré d'un terrain de 18 hectares avec un étang magnifique de 4 hectares, un étang poissonneux. Il y a un corps de bâtiments fermiers qui est magnifique, réellement. Et d'ailleurs, il est si magnifique que c'est par là qu'on arrive chez Trois Gros, c'est-à-dire par les bâtiments agricoles, qui nous intéressent. D'abord parce que c'est là qu'on stocke, c'est là qu'on préserve, comme un garde-manger en fait. Hein. C'est là qu'attend la nourriture d'une certaine façon. Et la cuisine, on l'a par nature ou par évidence donc construite dans le prolongement de ce corps de ferme splendide que le client traverse de part en part pour arriver donc au Bois sans feuilles. Le Bois sans feuilles, c'est cette salle de restaurant tout en verre et qui est immergé dans la nature, dans les grands arbres. Un chêne centenaire se tient au milieu de la salle de restaurant, mais il est cerné par une nature de grands arbres, de prairies, un panorama sur les montagnes de la côte rouennaise et le vignoble de la côte rouennaise. Et puis après, encore donc en prolongeant le Bois sans feuilles, très poétique, féerique, le soir, le Bois sans feuilles, on pénètre dans la maison, la grande maison d'habitation, qui est une maison d'architecture italienne. Probablement que en 1850, au moment de sa construction, le propriétaire était fou d'Italie, ou au point que il a fait construire une maison dans l'esprit des grands lacs italiens. Et tout ça avec un potager, des sensations évidemment pour cultiver par soi-même qu'on ne pouvait pas avoir à Rouen. Voilà. Maintenant, un corps de bâtiment qu'on a appelé la remise, dans lequel on a une boulangerie, un fournil. On produit le pain nous-mêmes. Tout ça, c'est des sensations qui nous étaient impossibles et inconnues quand on était place de la gare et qui prennent, aujourd'hui leur envol. Et il y a encore tellement de choses à expérimenter, là.
Vous avez fait appel à l'architecte Patrick Bouchain, architecte renommé qui a beaucoup construit, travaillé pour le monde du spectacle. On lui doit notamment le Cirque Zingaro à Aubervilliers, l'Auditorium d'Evian, le lieu unique à Nantes. C'est lui donc qui a réhabilité l'ancien corps de ferme, qui a réhabilité l'ancienne maison qui est devenue l'hôtel et qui a construit ce bâtiment, cette salle de restaurant du Bois sans feuilles entre ces deux bâtiments. Pourquoi est-ce que vous avez voulu travailler avec cet architecte Patrick Bouchain ? Qu'est-ce que vous aimez dans son travail ?
Sa modestie et sa flamboyance en même temps. Parce que c'est un homme scénographe, c'est un homme, on peut dire, dans sa conception des lieux, qui est assez théâtral. Alors pourquoi ? C'est une rencontre, hein, Patrick Bouchain. Avant Ouch, il y a la colline du Colombier à Ygrande, 10 ans avant, Marie-Pierre et moi faisons l'acquisition d'une ferme isolée au bout d'un chemin à la limite du Brionnais, au nord de Roanne. On ne sait pas réellement quoi en faire. On sait qu'on veut en faire quelque chose. Le central est déjà implanté place de la gare. On veut vivre une deuxième aventure et on sent le besoin non seulement de faire, d'entreprendre, mais de notre clientèle. On veut proposer quelque chose d'autre dans une très belle campagne. Le Brionnais, c'est magnifique. Et lors d'un voyage hier, on se rend à la Villa Noailles. À la Villa Noailles, il y avait une exposition de Patrick Bouchain. Le nom nous était inconnu. Et là, des maquettes, des propos d'architecture. Donc on découvre tout ça, le monde de Patrick Bouchain. Au point qu'on est séduit et que sur le chemin du retour, sur France Inter, Patrick Bouchain est l'invité. On dit, c'est incroyable, on vient de le voir et on l'entend sur la radio. Donc c'est un signe. Marie-Pierre et moi, on décide d'appeler l'agence Patrick Bouchain. On tombe sur lui directement au téléphone et là, il est assez... sympathique, il dit oui, Trois Gros, bien sûr, je connais, mais c'est pas mon domaine, je connais pas l'architecture de restaurant, moi c'est plutôt des salles de concert, des théâtres, musées, des lieux publics, des réhabilitations de sites, mais je vous écoute, j'ai un chantier à Lyon, la Maison de la Danse, à Rélieu, la Pape. Je vous fais signe, à ma prochaine réunion à Lyon, je m'arrête à Roanne. Voilà, les semaines et les mois passent. Et il vient nous voir, il voit la colline du Colombier, il passe la journée avec nous, il nous juge dans notre conception des choses. Il était très méfiant de nous et très méfiant de ce que pouvait représenter Trois Gros en termes d'excellence, de luxe. Et c'était pas son sujet. Mais tout de même, on prolonge notre histoire ensemble et puis la colline du Colombier, donc le projet se fait. On prend un plaisir fou à travailler avec lui. Il nous ouvre nos connaissances à l'architecture, à l'interrogation face à un bâtiment qui est quasiment en ruine, mais qui a encore la mémoire d'un travail agricole. Et on voit la manière dont Patrick conduit les artisans, conduit les chefs d'entreprise pour réhabiliter, pour réparer, où commencer et où finir. C'est-à-dire comment faire pour faire un lieu qui répond à l'exigence d'un client. Il veut un restaurant avec des chambres au milieu de la campagne, mais en même temps, ce lieu n'était pas fait pour ça. Et comment on peut lui garder la mémoire de ça tout en répondant au client? Et Patrick, c'est de la sensibilité, c'est de l'observation, mais permanente. Et on fait un tandem, notamment avec Marie-Pierre, Patrick Bouchain et Marie-Pierre. Ça marche, mais ça match merveilleusement entre eux. Et après, on est devenus amis. Et quand arrive le projet de Houche, l'acquisition de Houche, sur lequel il n'est pas d'accord au départ. Il dit, vous faites une connerie parce que vous allez rompre le fil de votre histoire et c'est trop dangereux. On lui dit, c'est bien Patrick, on t'entend, on te comprend, mais nous on le fait, tu peux nous conseiller un architecte? Et ce moment-là, il dit, je vais réfléchir. Le lendemain, il nous appelle, il dit à Marie-Pierre, c'est moi qui vais le faire, ça sera mon dernier chantier. Je vais tout donner pour que ça soit réussi, mais c'est un sacré challenge que vous me demandez. Il nous a accompagnés, il a réalisé Houche, mais il a fait 120 voyages entre la préparation du chantier, le chantier. Il s'est donné corps et âme, et voilà le résultat.
Quand on vous entend parler de Patrick Bouchain, on se rend compte aussi de l'admiration que vous avez pour des personnes qui maîtrisent l'excellence d'un domaine qui n'est pas le vôtre. Donc c'est le cas là en architecture, c'est le cas dans les artistes dont vous nous avez parlé hier, c'est le cas aussi avec vos fournisseurs, que ça soit un maraîcher, que ça soit un affineur, un vigneron, un éleveur. Est-ce que c'est une qualité qui est pour vous importante dans le métier de cuisinier, cette curiosité?
C'est fondamental, c'est le plaisir d'échanger, c'est le plaisir de se nourrir mutuellement. Il en va de soi que autour de nous, nous, on parle pas, j'aime pas le mot excellence, en fait. Il existe peut-être en parallèle parce qu'on cherche le meilleur de tout, parce qu'il y a une exigence, en effet, dans la collaboration, il y a une exigence mutuelle, mais ça se dit pas, c'est des sentiments partagés vers ce qu'on peut donner de meilleur, à la fin, réjouir, donner du plaisir. Et en même temps, plus la cuisine a une identité sobre, plus ce qui en est la source. Et ce qui l'entoure doit être... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il y a de plus rare, ou de plus naturel, ou de plus local, de plus saisonnier, de... Mais voilà, c'est pas... C'est ça, peut-être, voilà, c'est ce qui caractérise, en fait. Le travail d'un cuisinier comme d'un cuisinier, d'un restaurateur, voilà. Savoir, en effet, trouver le plaisir et avoir autour de soi les personnes qui partagent les mêmes valeurs.
Est-ce que vous pourriez nous raconter le dernier service que vous avez fait dans la maison Trois Gros, je crois que c'était un 31 décembre 2016, jour de réveillon, dans cette maison Trois Gros de Roanne, avant d'aller à Ouche?
C'était un 31 décembre. D'habitude, il y a un peu de joie dans l'air, un 31 décembre. Là, j'avais un peu... C'était un peu bizarre. J'étais au milieu du guet, là. Je sais pas, c'est un peu bizarre pour moi. Pour tous, d'ailleurs, parce que les fourneaux allaient s'éteindre. On a pris soin, avant de les éteindre, d'allumer la flamme pour qu'elle elle ne s'éteigne jamais. J'avais eu cette idée qui me trottait dans la tête parce qu'à la fois, j'étais très excité parce qu'il allait arriver, ouvrir une nouvelle maison, et à la fois très angoissé parce qu'il allait arriver, fermer la maison historique. Il me fallait trouver quelque chose, je sais pas, qui me permette de franchir ce moment-là. Je sais pas, j'ai eu l'idée d'allumer une flamme avant que le fourneau de Roanne s'éteigne, pour que cette flamme soit transportée sur le fourneau de Ouche, à la main, entourée de personnes que j'aime, et que voilà, cette marche de 10 km bah, se fasse, qu'elle soit commune, et qu'on puisse se passer cette lanterne les uns les autres, comme un symbole d'une passion qui s'éteint jamais.
Et donc vous avez marché durant plusieurs heures à pied,
avec le casse-croûte,
entre la gare de Roanne et Ouche. Et une fois que vous arrivez à Ouche, qu'est-ce que vous faites?
Moi, je sors avec la flamme à la main de la maison de Roanne au milieu de la nuit. Donc, c'est pas le 31, c'est le 1er janvier. Et c'est mes enfants qui rentrent dans la maison de Ouche avec la flamme à la main et qui la déposent en cuisine en attendant que le piano arrive, parce que c'était le même piano qu'on a transporté de la place de la gare à la nouvelle maison de Ouche. Et quand le piano est arrivé, on a déposé la flamme sur le piano, elle brûlait encore, alors il fallait prendre soin de renouveler la bougie qui est à l'intérieur. Ce qui est magique, c'est qu'elle s'est jamais éteinte, la bougie, pendant le transport, pendant les 10 kilomètres. Attends, on est parti à Potron-Minet, on est parti, il était 4 heures du matin, on avait amené le sandwich, ça caillait, je vous dis pas, il faisait froid, mais par chance, on a eu un lever de soleil incroyable, donc on avait fait, j'avais vraiment tracé l'itinéraire pour que ça soit joli, avec une étape où au moment où on casse la croûte, on avait amené dans le sac à dos tout ce qu'il fallait, du vin chaud, tout ça. Et voilà, en fait, bon, voilà, ça a été, j'étais rassuré. Il fallait me trouver quelque chose, parce qu'au départ, mon idée, c'était d'y associer toutes les équipes. Donc, on est 60, il y a 10 kilomètres. J'avais divisé les 10 km par le nombre de collaborateurs. Je sortais de la maison, je faisais tant de mètres, je transmettais comme la flamme olympique, je transmettais ma lanterne à celui qui arrivait vers moi. On marchait ensemble jusqu'au troisième, puis on lui transmettait, on marchait à trois et ainsi de suite. Et on arrivait à 60, donc dans la nouvelle maison de Ouche. Quand j'ai proposé ça aux équipes, on m'a dit « Mais non, chef, moi je peux pas, je pars en vacances. On n'a que quelques jours avant l'ouverture de Ouche. » J'ai dit « Bon allez, c'est bon. Ok. » J'ai dit « J'ai compris, je vais le faire tout seul. » Et une semaine avant la fermeture de Roanne, arrive une bande de copains, cuisiniers, restaurateurs qui venaient là une dernière fois. Alors j'étais à la fois honoré, mais en même temps, ça me tordait le ventre. J'ai dit, vous venez, c'est trop dur, on va parler que du passé et tout ça. Et là, ces copains, je leur raconte mon histoire de la flamme, etc. Ils me disent, ah bah s'ils veulent pas y aller, nous on vient. Et quand mes enfants, quand Marie-Pierre a entendu ça... Le lendemain, ils me disent « Bon, allez, d'accord, on fait ta marche. On y va. »
En 2013, votre fils César devient chef cuisinier dans votre restaurant. Il vous seconde, comme vous avez secondé votre père durant 13 ans. Il a repris depuis les rênes de la maison Troisgros en 2023, après donc 10 années à vos côtés. Comment est-ce que s'est déroulée cette transmission avec votre fils César ?
Par étapes et merveilleusement bien. Par étapes parce qu'il est, quand il rentrait des États-Unis avec l'envie de partir pour le Japon. Les événements de Fukushima ont fait qu'il n'est pas parti. C'était le jour même de Fukushima où il devait monter dans son avion pour Tokyo, y partir pour un an. Donc c'est un peu une histoire qui se répète, puisque moi je devais partir pour l'Australie, je pars pas pour l'Australie avec Marie-Pia. C'est vraiment, j'arrivais des États-Unis, New York, lui il arrivait de la Napa Valley. Vraiment, il y a quelque chose de commun entre ces deux positions. Et donc il prend, en attendant des jours meilleurs pour le Japon, je lui donne des responsabilités, il les prend, il amène des idées, des grands chefs avec qui il a travaillé, de ses voyages, des rencontres, d'une diversité aussi du monde, des cuisines du monde, comme j'avais eu moi. Mais 30 ans plus tard, avec un penchant vraiment beaucoup plus espagnol et beaucoup plus mexicain, avec un goût très prononcé pour le piquant, pour l'acidité lui aussi, mais l'acidité des citrons verts, voilà. Et il prend pied, il prend confiance, il prend des responsabilités et il arrive au bout de 3-4 ans et il devient chef de cuisine. Et là, on travaille en tandem sur la création. Il propose, j'accepte, on collabore, on met au point certains plats qui sont vraiment le fruit d'une réflexion commune. Et peu à peu, il prend le pas sur moi. C'est-à-dire que moi, j'accepte de plus en plus que ce soit lui qui propose, au point où c'est lui qui propose tout seul et où moi je commentais à un moment donné, et je l'amenais, il m'écoutait, et je l'amenais à rectifier des propositions qui émanaient de son travail. Jusqu'au jour où je me suis dit, et c'est Frédéric Wiseman, avec son documentaire il y a 2 ans, qui m'a fait prendre conscience du pas que j'avais à faire, parce qu'en me voyant rectifier César à l'écran, commenter des plats sur lesquels il avait longuement travaillé, j'ai pris conscience qu'il fallait que j'arrête. Il fallait que j'arrête pour qu'il s'épanouisse pleinement et qu'il fasse les erreurs et qu'il assume ses erreurs pour grandir. Donc aujourd'hui, c'est César qui décide entièrement de A à Z la conception de ses plats, y compris d'ailleurs l'intitulé. C'est lui qui les nomme, c'est lui qui les défend, c'est lui qui les rectifie s'il a à les rectifier. Moi, je les goûte, il me les donne à goûter. Si j'ai à lui dire quelque chose, je lui dis en off. Je lui dis pas dans l'immédiat. Je lui dis en tête à tête et avec du doigté. Et il en fait ce qu'il en veut. Et c'est vraiment sa cuisine.
Vous venez de faire référence donc à ce documentaire Menu Plaisir qu'a tourné Frédéric Wiseman dans votre restaurant, un documentaire de plus de 4 heures, que je conseille d'ailleurs à nos auditeurs et dont France Culture était partenaire. Si l'on revient à cette question de la transmission, Michel Troisgros, vous avez aussi 2 autres enfants, Marion, l'aîné, et Léo. Est-ce qu'ils étaient intéressés par reprendre l'affaire familiale ou bien est-ce qu'ils avaient envie de voguer de leurs propres ailes vers d'autres domaines ou non d'ailleurs ?
Alors, parlons de Marion. Marion, maintenant, elle est installée à 2 pas hein, de Ouche. Elle est à Ouche, mais à 2 pas de la grande maison. Elle est passionnée depuis toujours des chevaux. Elle a eu même un centre équestre avant de venir s'installer ici. Elle a toujours cette passion pour les chevaux. Hein. Il y a des chevaux partout dans les prés qui entourent sa ferme. Et elle vient de construire 5 gîtes. Qui donne d'ailleurs sur une carrière où on monte à cheval. Alors ces gîtes-là sont tout en bois, c'est très beau, hein. C'est un très bel endroit. De toute façon, Ouche, c'est un très bel endroit. Hein. La nature est très très belle autour de nous. Voilà, et Marion, elle s'épanouit, elle a 3 enfants, son mari est paysagiste, agriculteur, il y a des vaches au pré, voilà, on cohabite, mais elle est indépendante. Léo, quant à lui, il est cuisinier. On l'a attendu à la maison, son frère l'a attendu, nous l'avons attendu, on pensait qu'il allait revenir, mais en même temps il était libre de prendre sa décision après avoir également appris à la fois en France et à l'étranger. Alors lui, il est parti, Léo, 1 an au Japon, il est parti 1 an à Berlin, il est parti 1 an en Suisse, il a travaillé avec Alexandre Gauthier à la Grenouillère, encore une maison de Patrick Bouchain. Tout comme son frère aîné, ben il a appris son métier, puis il est revenu au moment de l'ouverture de Ouche, il est revenu à côté de nous, et là il est reparti au Japon, et puis il est revenu. Il a à la fois énormément de respect pour son frère aîné qui a 7 ans de plus, et à la fois il veut pas être sous la tutelle de son frère. Il veut exprimer la cuisine Léo comme il l'entend, avec plus de décontraction, avec moins la chape, en effet, de l'histoire et du guide Michelin derrière lui. Il a souhaité son indépendance. Son indépendance, il la voyait pas à Rouen, il la voyait à Lyon. Avec Lisa, sa compagne, ils sont partis à Lyon visiter des restaurants pour éventuellement se lancer à Lyon. Et comme ils ont travaillé 3 ans à la Colline du Colombier, lui, chef de cuisine, et elle, donc manager de restaurant, ils se sont rendus compte que plus ils voyaient de restaurants sur Lyon, plus la comparaison avec ce qu'ils avaient connu comme responsabilité, comme plaisir à travailler avec leur équipe à la Colline du Colombier, refaisait surface. Tout le temps, c'était « Ah oui, mais à la Colline, on avait ça, c'était comme ça, etc. » Au point où un jour, Léo vient nous voir, il nous dit « J'aimerais reprendre la Colline. » Alors nous, on s'est accrochés, on nous dit « Mais non. Mais pourquoi vous le prenez? C'est pas une bonne nouvelle ?» On dit « Si, mais on s'y attendait pas du tout, tu vois. » C'était étonnant. Et c'est pour ça que Léo, aujourd'hui, est à la Colline du Colombier. À la fois, il forme la famille, il forme un clan, et à la fois, il est indépendant. Ils ont leur indépendance avec leur cuisine.
Est-ce que vous diriez que vous avez offert à vos enfants une certaine liberté dans l'héritage qu'ils ont eu?
En tout cas, Marie-Pierre et moi, on n'a jamais souhaité les contraindre à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, des cuisiniers, des restaurateurs. C'est d'eux-mêmes que ça s'est fait. Au point même où l'un et l'autre, quand ils nous ont demandé de rentrer dans une école de cuisine pour s'engager, en effet, dans le métier, on a dit, l'un et à l'autre, on a dit, t'es sûr? Tu dis pas ça pour nous faire plaisir, pour s'assurer réellement que, voilà, ils s'engageaient là-dedans d'eux-mêmes.
Si cette vie était à refaire, Michel Troisgros, est-ce que vous la referiez différemment? Est-ce que vous changeriez la recette ou pas?
Ça tient à rien, en fait. Hein. En Australie, peut-être, on pourrait l'en faire. Ça tient à rien qu'on ait fait notre vie en Australie ou ici, à Rouen. Rien n'était prévu. Ça s'est fait, quoi. Et ça s'est fait avec beaucoup de chance. On a beaucoup de chance, Marie-Pierre et moi. Beaucoup.
Et quand vous regardez ce passé, vous êtes heureux de ce que vous avez accompli, construit, hérité, transmis?
J'ai beaucoup de chance de rencontrer Marie-Pierre, d'avoir des beaux enfants. Je suis heureux de... Oui, oui. Finalement, quand on voit ce que nous donne en sensation, en plaisir, la nouvelle maison d'Ouge, il n'y a aucun regret de l'avoir fait. Et puis, avec cela, je crois que la maison Troisgros vit pleinement dans son temps.
Nous arrivons au terme de ces 5 épisodes d'Avoix Nues, Michel Troisgros. Un grand merci à vous de nous avoir reçus chez vous à Ouche, près de Rouen. Pour votre générosité, merci d'avoir pris ce temps long pour vous raconter.
Merci Marceau, ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec passion.
C'était Avoix Nues avec Michel Troisgros, chargé de programme Daphné Abgral, réalisation Jean-Philippe Navarre, une série de Marceau Vassy, disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Thank you.